allons-nous apprendre à arrêter de vivre pour les hommes et à vivre pour Dieu et à comprendre que si nous vivons pour lui et si nous faisons de notre mieux avec un cœur juste, vous savez quoi? Les écluses des cieux s'ouvriront et le Seigneur va nous bénir de façon absolument incroyable. Je me demande combien nous renonçons à ce que Dieu aimerait faire pour nous et combien nous ratons parce que nous sommes occupés à essayer de nous attribuer un peu de mérite ou d'attention. Je me demande ce que Dieu aimerait faire pour nous si nous lui faisions assez confiance pour fermer nos bouches et attendre de voir ce qu'il aimerait faire. Allons à Matthieu 6. J'aime prêcher la parole. Matthieu 6. Gardez-vous de pratiquer vos bonnes œuvres en public ou devant les hommes pour être vu par eux. Maintenant, voilà le motif pour être vu par eux. Cela ne signifie pas que personne ne doit vous voir faire de bonnes œuvres. Ce n'est pas toujours possible de cacher tout ce que vous faites aux autres. Mais l'essentiel ici, c'est le motif. Ne les faites pas pour être vu par eux. Avez-vous jamais remarqué que Jésus, dans beaucoup de choses qu'il faisait, se retirait vite et personne ne savait où il allait? Eh bien, des fois, il disait même « Prenez garde de n'en rien dire à personne ». Eh bien, pourquoi ça? Il ne voulait pas attirer l'attention. Il ne faisait pas les choses pour cela. Il voulait les garder pures pour glorifier Dieu. N'oubliez jamais et rappelez-vous toujours que quand les gens ne vous voient pas, Dieu qui est aux cieux vous voit tout le temps. Il s'enthousiasme pour ce que vous faites, même si personne d'autre sur terre ne voit rien de ce que vous faites. Autrement, vous n'aurez pas la récompense qui vous est réservée et vous attend de votre Père qui est aux cieux. Quand donc vous faites l'aumône, ne le faites pas claironner devant vous, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être reconnus et honorés et loués par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont déjà eu leur récompense. Mais quand vous faites l'aumône, que votre main gauche ne sache pas ce que fait votre droite, vous savez quoi, j'ai en fait, pour moi, Dieu me l'a expliqué comme ça, vous savez, je suis tellement impliquée dans beaucoup de grandes choses pour les gens, et... Vous savez, je suis occupée. Nous aurons une grande conférence ici. Nous aurons peut-être 1700 personnes sauvées au moment où nous rentrerons chez nous. Des choses impressionnantes vont se passer. Vous savez, je reçois beaucoup de compliments. Beaucoup de gens me disent de bonnes choses. Mais ce que je dois faire à ce moment-là, c'est de prendre ces compliments et de les donner à Dieu comme un bouquet de fleurs. Et quand je vais me coucher sur mon lit ce soir, je ne dois pas m'allonger là et penser à quel point je suis bonne et aux bonnes choses que j'ai faites. Vous ne pouvez vraiment pas vous permettre de faire ça. Vous devez dire, Dieu, je ne suis rien sans toi. Je dis au moins une dizaine de fois par jour, je lui dis, Dieu, je ne suis rien sans toi. Si tu bouges un tout petit peu, je tomberai sur mon visage. Je ne peux rien faire sans toi, Dieu. Je suis un tout rien, Seigneur. Je suis tout en toi et rien sans toi. Et je ne dis pas ça pour me rabaisser ou avoir mauvaise conscience, mais je ne peux pas me permettre d'être imbu de moi-même, car si je fais ça, ce sera la fin. Vous voyez, je suis douloureusement consciente que ce que je fais est de Dieu, car à vrai dire, Église, je ne suis pas aussi douée que ça. Je parle, et si je n'ai pas une onction sur ma vie, c'est fini. Les gens ne vont pas s'entasser dans ces bâtiments pendant des heures, et venir de loin et payer des chambres d'hôtel et chercher des babysitters pour écouter une femme parler et crier s'il n'y a rien d'autre qu'elle dans ces bâtiments. Je dois avoir la présence de Dieu sur ma vie, sinon ça ne servira à rien. Et je ne peux pas l'avoir si je ne fais pas tout ce que je peux faire pour garder mes motifs purs. Maintenant, croyez-moi, mes motifs sont loin d'être à 100% purs. Donc si vous n'avez pas besoin de ce message, je vais le prêcher pour moi car j'en ai besoin une fois par jour. Mais je veux que mes motifs soient bons et je ne veux pas faire les choses pour les mauvaises raisons. Et je veux obéir à Dieu et croyez-moi, je grandis tous les jours. Et j'essaye d'ouvrir des yeux ici ce soir et j'essaye de réveiller certaines personnes si vous n'avez jamais fait très attention à ça ou si personne ne vous a jamais enseigné ce genre de choses. Nous devons écouter ça. Ce que nous faisons n'impressionne pas Dieu. L'important, c'est pourquoi nous le faisons. Vous devez simplement prendre la femme qui a donné le denier de la veuve. Elle a donné deux deniers, et chacun équivaut à un demi-cent. Non, mais j'ai oublié ce qu'étaient les chiffres, mais c'était une très, très faible somme d'argent. Et il y avait beaucoup de gens qui mettaient de l'argent dans le trésor. Et la Bible dit que Jésus était assis en face du trésor et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Ouais, c'est ce qu'il faisait. Et ils ne regardaient pas combien ils jetaient, ils regardaient l'attitude de leur cœur. Ils regardaient leur attitude. Et la veuve a probablement donné moins que tous les autres là, mais il a dit qu'elle a donné plus que tous les autres. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a vu son cœur. Elle était complètement prête à sacrifier tout ce qu'elle avait et elle l'a fait strictement par amour pour Dieu et elle a donné plus que tous les autres. Dieu en fait compte différemment de nous. Amen. Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment faire leurs prières debout dans les synagogues et au coin des rues afin d'être vus des hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont déjà reçu leur récompense. Combien d'entre vous ont eu l'occasion de prier devant un groupe de personnes? Maintenant, je vais vous demander d'être sincère. Vous êtes-vous jamais surpris à ne pas vraiment parler à Dieu, mais à essayer de faire une forte impression? Ça m'arrive parfois à moi, allez. Je dois faire attention à ça. Même quand je suis ici, je dois veiller exprès à rester parfaitement connectée à Dieu et à lui parler et à ne pas essayer de paraître éloquente dans le but de vous impressionner. Pourquoi? Parce que si je vais prier, je veux que ça marche. Je veux qu'il y ait une puissance dans ma prière et je ne suis pas là pour vous impressionner. Je parle à Dieu en votre nom pour que nous ayons un exaucement et que nous ayons une réponse. Et puis j'aime celui-ci. Verset 7. Quand vous priez, n'entassez pas les phrases. Je parie que Dieu pense parfois, « Eh bien, veux-tu te taire ?»« Oh, tu es le plus grand, le plus merveilleux, le plus beau, le plus puissant Dieu dans les cieux. Je t'aime beaucoup, je t'aime. » Oui. Non, mais il y a des gens que j'ai côtoyés, quand ils commencent à prier, ils prennent un ton tout à fait différent de leur ton. « Oh oui, je vous le dis, Dieu Tout-Puissant !» Vous savez ce que dit Dieu? Quand vous priez, n'essayez pas de m'impressionner. Allez, n'essayez pas de m'impressionner. N'entassez pas des phrases pour essayer de paraître éloquent. Parlez-moi simplement comme vous parlez à un ami. Soyez sincère et parlez-moi comme vous parlez à un ami. Amen. Bon, parlons de nos patrons pour un instant, car nous ne voulons pas oublier cette partie. Colossiens 1, 10. Vous ne voulez pas rater cette partie. Pour que les gens marchent et vivent et se comportent, ou bien pour que vous marchiez et viviez et vous comportiez d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable et désirant de lui plaire en toute chose. Il y a donc un bon motif. Dieu, je veux te plaire dans tout ce que je dis et pour pouvoir faire ça, je dois le faire avec un cœur pur. Je ne dois pas le faire pour obtenir quelque chose, je ne dois pas le faire pour impressionner les autres. Je ne dois pas le faire pour m'impressionner, je dois le faire avec un cœur pur. Est-ce que quelqu'un comprend à quel point c'est important? Désirant de lui plaire en toute chose. Puis il continue, il parle de grandir progressivement. Regardons Colossiens 3, 22, 23 et 24. Serviteurs. Cela veut dire « employés ». Obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair, ceux qui ont autorité sur vous. Dans les versets précédents du même chapitre, il dit « Enfants, obéissez à vos parents. Marie, aimez vos femmes. » Je crois qu'il dit quelque chose comme « Femmes, soyez soumises à vos maris », mais j'essaye de ne pas trouver ça. Oh là là, ça y est, je l'ai trouvé. Puis il dit au père de ne pas provoquer ni irriter leurs enfants. Ne passez pas votre colère sur eux. Vous avez eu une mauvaise journée au travail, ne le passez pas sur vos enfants. Puis il s'adresse aux employés et aux patrons. À cette époque-là, on les appelait serviteurs et maîtres, mais c'est la même chose qu'employés et patrons. Il dit, obéissez en tout à vos maîtres selon la chair. Servez-les, non pas parce qu'on vous surveille, comme si vous cherchiez à plaire aux hommes. Bon, donc, quand le patron n'est pas au bureau, vous faites des trucs personnels sur l'ordinateur et sur Internet. Puis il entre dans le bureau et vous changez pour lui plaire. Allez, je vais me trouver quelqu'un à qui parler. Vous voyez, ce qu'il y a, c'est que, s'il vous plaît, comprenez, Dieu vous voyait avant que le patron n'entre dans le bureau. C'est ce que j'essaye de vous faire comprendre. Quand allons-nous apprendre à arrêter de vivre pour les hommes et à vivre pour Dieu et à comprendre que si nous vivons pour lui et si nous faisons de notre mieux avec un cœur juste, vous savez quoi? Les écluses des cieux s'ouvriront et le Seigneur va nous bénir de façon absolument incroyable. Vous direz peut-être, on ne me paye pas assez, donc je dois prendre une partie de mon temps de travail pour faire mes trucs personnels parce qu'on ne me paye pas assez. Vous savez quoi? Vous n'aurez jamais de promotion. Vous n'aurez jamais un meilleur salaire. Continuez comme ça et vous serez renvoyé ou mis au chômage, car Dieu ne supporte pas ce genre de trucs. En tout cas, surtout pas de ses enfants. Amen. Eh bien, quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur et non pas à peine. Quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur, de l'âme, comme quelque chose fait pour le Seigneur et non pour les hommes. Verset 24, sachant en toute certitude que vous recevrez du Seigneur et non des hommes, que vous recevrez l'héritage qui est votre vraie récompense. Le maître que vous servez, en fait, et le Seigneur Christ, le Messie. Nous vivons et nous respirons pour servir Dieu. Nous lui appartenons. Nous avons été rachetés à un grand prix. Nous ne commençons pas à nous servir nous-mêmes. Maintenant, je vous demande de penser à une transition. Quand vous vous levez le matin et que vous commencez à vous habiller, est-ce que vous vous habillez d'une manière qui, selon vous, plaira à Dieu? J'ai dû dire ça car j'aime beaucoup vous dire mon opinion de temps en temps. Il y a des femmes chrétiennes. Il y a des parties du corps qui pendent dehors que nous ne voulons pas voir et que nous ne devons pas voir. C'est incroyable ce que j'endure avec Dave quand je m'habille pour ses réunions. Tourne-toi, laisse-moi voir. Gnagnagna, gnagnagna. Vous savez, je représente Dieu. Où que vous alliez, si vous vous faites appeler chrétien, vous représentez Dieu. Oh, la vie devient si passionnante si vous pensez, je vais travailler pour Dieu aujourd'hui. Je ne travaille pas pour cet homme, mais pour Dieu. Et je vais entrer là, et ça m'est égal comment on me traite ou qu'on me paye. Je vais faire un excellent travail parce que je travaille pour Dieu. Et la Bible me dit de ne pas potiner sur mon patron et de ne pas médire de lui, mais de prier pour lui et de le bénir. Et je ne vais pas faire partie des bavards du bureau. Je vais faire ce que je fais comme Dieu veut que je le fasse, car je vis pour Dieu. Je ne vis pas pour les hommes. Allez, je prêche mieux que vous ne réagissez. Vous dites, ouais, eh bien, tu ne sais pas comment ce type me traite, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous voulez la promotion de Dieu dans votre vie, vous devez faire ce que vous faites comme Dieu veut que vous le fassiez, même si vous n'en avez pas envie, et ensuite Dieu interviendra et fera pour vous des choses que personne ne comprendra et ne trouvera logiques. Dieu peut vous mettre dans des endroits où personne d'autre ne peut vous mettre. Combien d'entre vous voulez une promotion de Dieu dans votre vie? Vous voulez voir la grâce de Dieu sur votre vie? Commencez à vivre toute votre journée pour Dieu. Nettoyez votre maison pour Dieu. Arrêtez de murmurer et de grogner pendant que vous le faites. Tondez votre gazon pour Dieu. Lavez votre voiture pour Dieu. Faites tout ce que vous faites et dites-le à haute voix. « Dieu, je fais ça pour toi. Je fais ça pour te glorifier. Je vis pour toi. » Vous dites « Dieu ne s'intéresse pas à ce genre de choses. Il ne s'intéresse qu'à l'Église. » C'est la grosse erreur que nous faisons. Dieu veut être impliqué dans tous les domaines de notre vie pratique de tous les jours, tous les domaines de notre vie. Dieu veut y être impliqué. Eh bien, ça alors. Et les motifs, et la prière. Regardons Jacques, chapitre 4, versets 1 à 3. D'où viennent les conflits, les dissensions et les querelles, et comment les combats, les disputes et les luttes commencent parmi vous? N'est-ce pas de vos désirs sensuels qui combattent toujours dans vos membres? Donc il s'apprête essentiellement à dire ici, les gens ne sont pas heureux et sont mécontents à cause de tous les trucs qu'ils veulent. Vous réalisez à quel point vous pourriez être heureux si vous ne vouliez pas certaines choses? Oh, continuons. Donc, Vous êtes jaloux et vous convoitez ce que possèdent les autres et vos désirs sont inassouvis, donc vous devenez meurtrier car haïr est un meurtre pour vos cœurs. Vous brûlez d'envie et de colère et vous ne possédez pas la satisfaction, le contentement et le bonheur que vous cherchez. Vous contestez et vous faites la guerre. Une réponse très simple au problème, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Donc, tout ce que vous voulez, au lieu d'essayer d'y arriver vous-même ou d'être jaloux de quelqu'un d'autre qui a ce que vous voulez, demandez à Dieu ce que vous voulez et s'il veut que vous l'ayez, il vous le donnera à sa façon et en son temps. Ou bien, ou vous les demandez à Dieu et vous ne les recevez pas. J'aime ça. Parce que vous demandez avec une mauvaise intention et des motifs mauvais et égoïstes. Donc, notre motif dans la prière peut être puant, car il peut être égoïste. Il y a des années, Dieu m'a défié un jour de comparer ma vie de prière à celle de l'apôtre Paul. Et j'ai appris une leçon. Savez-vous qu'il n'y a pas un seul verset où l'apôtre Paul a prié pour lui-même ou pour quelqu'un d'autre pour une chose? Je ne dis pas que c'est faux de mettre vos pétitions devant Dieu, mais je vous dis que ce n'était pas une priorité dans la vie de Paul et qu'il n'a jamais prié pour lui-même ou pour n'importe qui dans toutes les églises pour qu'il soit délivrés d'un problème qu'ils avaient. Qu'est-ce qu'ils priaient? Ils priaient pour qu'ils supportent tout ce qui venait sur eux avec bonne humeur. Je devrais peut-être m'asseoir à nouveau. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient tellement confiance à Dieu qu'ils croyaient absolument que tout ce qui avait lieu dans sa vie, était quelque chose qui allait travailler pour son bien et le bien du royaume. Il faisait confiance à Dieu. Donc Paul a prié pour plusieurs choses. Que les gens connaissent Dieu, qu'ils aient la révélation et la connaissance de Dieu, qu'ils connaissent Dieu et non pas qu'ils connaissent des choses sur Dieu, qu'ils connaissent leur héritage parmi les saints, qu'ils sachent qui ils sont dans le Christ et qu'ils connaissent la puissance qui est la leur comme croyants en Jésus-Christ. Il a prié qu'ils soient enracinés et fondés dans l'amour de Dieu, qu'ils connaissent pratiquement l'amour de Dieu pour eux. Il a prié qu'ils soient entièrement remplis de Dieu et il a prié pour leur corps soit sain et complètement rempli de Dieu. Il a prié qu'ils aient des personnalités remplies de l'Esprit et qu'ils soient tellement remplis et inondés de la puissance de Dieu et qu'elles remplissent leur personnalité. Il a prié qu'ils choisissent ce qui est excellent et qu'ils abondent en amour. Devrais-je continuer? Bon, je vais donc vous raconter une autre histoire. Bon sang, ai-je appris une leçon sur les motifs? Dieu merci, je peux dire que c'était il y a 35 ans, mais ma vie de prière était pathétique et je ne le savais pas. Dieu nous rejoint là où nous en sommes, et je suis reconnaissante parce qu'il a répondu à bon nombre de prières pathétiques pour me montrer qu'il est bon, mais il veut nous changer radicalement. Et je ne vous dis pas qu'on ne peut pas demander des choses à Dieu, mais ceci ne doit pas être la priorité dans nos vies. C'est comme, je veux ceci, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de ceci, change Dave, change mes enfants, nanana. Donc, de toute façon, entre toutes les choses dont j'avais besoin, entre toutes les profondeurs spirituelles dont j'avais besoin et toutes les choses dans ma personnalité qui étaient détraquées, j'espérais de Dieu un manteau de fourrure. C'est drôle, n'est-ce pas? Allez-y, vous pouvez rire aussi fort que vous voudrez. C'est vraiment bête comme tout. Et vous savez quoi? J'avais quelques amis qui en avaient et j'en voulais un pour le prestige. Je l'ai décrit à Dieu, la couleur, le genre de fourrure que je voulais, etc. Eh bien, j'avais une voisine que j'aimais, mais elle ne me plaisait pas beaucoup. Vous connaissez des gens comme ça? Je crois qu'elle méritait parce qu'elle jouissait de la vie et moi pas. Un jour, on a sonné à ma porte et elle était debout dehors avec une boîte et elle était tellement excitée. Elle m'a dit « Tu ne croirais pas ce que Dieu m'a donné !» Elle a ouvert la boîte et c'était mon manteau de fourrure. Mon manteau de fourrure! Non mais croyez-moi, j'ai sincèrement pensé qu'on a dû le livrer à la mauvaise adresse. Il n'y avait pas moyen que je croie que Dieu lui a donné ce manteau de fourrure parce qu'elle était loin d'être aussi spirituelle que moi. Elle ne priait pas comme moi, elle n'étudiait pas comme moi, elle ne donnait pas autant que moi, elle ne jeûnait pas comme moi. Il n'y avait pas moyen que Dieu le lui donne parce qu'elle ne le méritait pas. Allez, nous allons quelque part avec ça. Non mais j'ai fait le truc chrétien. Oh, le Seigneur soit loué. Oh, je suis si contente pour toi. Donc maintenant, j'ajoutais le mensonge à mes autres problèmes. Eh bien, quand elle a quitté, j'ai piqué une crise. Non, mais j'ai dit à Dieu, je ne comprends pas. Je fais ceci et je... Vous m'entendez? Je fais et je mérite. Je fais et je mérite. Allez, je faisais tout ce que je faisais pour la mauvaise raison. Je faisais tout cela pour obtenir quelque chose et non pas parce que j'avais reçu quelque chose. Je ne servais pas du tout Dieu pour des motifs purs. Si vous avez un énorme problème et que vous pensez « Comment ceci a-t-il pu m'arriver? Je prie 2 heures tous les jours. » Vous savez quoi? Vous venez de révéler que vous priez pour la mauvaise raison. Ou bien quand vous voyez quelqu'un béni, et selon vous, il est loin d'être aussi spirituel que vous et loin d'être aussi engagé que vous, oh oh! Devinez quoi? Peut-être que Dieu le bénit devant vous, juste pour vous révéler que votre attitude de cœur est mauvaise. Et Dieu s'emploie toujours à allumer son feu dans notre vie, dans le but de nous purifier et dans le but de brûler le rebut et laisser tout ce qui reste en feu. Amen. Allez, si vous êtes célibataire et vous avez longtemps espéré en Dieu pour vous marier et vous avez 20 amis qui se sont déjà mariés, vous feriez mieux de les bénir et d'être contente. Oh, 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 ça alors. Commençons à prier. Dieu, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Travaille avec moi et purifie mes motifs. Je veux faire tout ce que je fais dans la vie pour Dieu, à cause de ce que Jésus a fait pour moi et non pas pour lui faire faire quelque chose pour moi. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu ne me doit rien. Il m'a déjà tout donné. Tout. Absolument tout. J'espère que cet enseignement vous encouragera à prier pour que Dieu vous révèle vos vrais motifs dans tout ce que vous faites dans la vie. Et n'oubliez pas que Dieu se soucie davantage de pourquoi nous faisons les choses que de ce que nous faisons. Son désir est que nous ayons un cœur pur qui non seulement bénit Dieu, mais bénit aussi nos actions et bénit nos vies.